Les dessous de l'Infox. Sophie Malibaud.
Bonjour et bienvenue dans les dessous de l'Infox. L'adhésion future de la Géorgie à l'Europe est-elle toujours de mise? Les électeurs géorgiens se rendent aux urnes demain pour en décider. Dans l'orbite de Moscou, le pouvoir en place recourt à tous les moyens pour s'y opposer. Manœuvres informationnelles et outils juridiques, on en parle avec Apolline Roy, spécialiste de l'influence russe en Géorgie. Fausses déclarations, montages vidéo fallacieux et autres techniques de désinformation. Dans sa chronique, Grégory Genevrier épingle des publications virales visant à semer le trouble en Côte d'Ivoire. Et puis avec Kaofi Souid, AFP Factuel, nous revenons sur des images qui circulent sur les réseaux sociaux pour illustrer le soutien rwandais à la rébellion du M23 dans l'est de la RDC, des images pourtant hors contexte. Mais tout de suite, on part pour Tbilissi. Apolline Roy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante à l'Institut français de géopolitique, spécialiste de l'influence russe en Géorgie. Vous participez au projet de recherche Géode pour géopolitique de la datasphère, qui est donc partenaire de cette émission. Vous êtes arrivée à Tbilissi, la capitale géorgienne, il y a quelques jours. Dites-nous, à la veille du scrutin électoral, quel est le climat ambiant ?
Effectivement, quelques jours avant les élections, on est dans un climat de tension, un climat d'anticipation. Il y a eu le 20 octobre, c'était un dimanche, il y a eu une énorme manifestation qui s'appelait « La Géorgie choisit l'Union européenne », qui a réuni plus de 100 000 personnes, qui s'est déroulée dans une ambiance assez festive et qui contrastait en fait avec un rassemblement qui a eu lieu quelques jours plus tard en soutien au parti au pouvoir Le Rêve géorgien, et qui s'est déroulé dans une ambiance bien plus morose, en tout cas, qui a rassemblé beaucoup de personnes qui se baladaient dans les rues en noir, les rues qui étaient complètement bloquées, avec notamment énormément de bus, puisque le parti au pouvoir a fait venir des personnes des régions en soutien à leur manifestation. Donc c'est une ambiance assez tendue, mais qui pour autant est quand même tout à fait contenue, puisque une des craintes de la population, ce serait que des manifestations qui est une escalade et que finalement on arrive à un niveau un peu moins facile à contenir qui se traduirait par une guerre civile et éventuellement une guerre tout court qui reste en fait un souvenir très traumatisant pour la majorité des Géorgiens qui n'ont pas du tout envie de voir ça se reproduire et qui choisissent donc de garder une posture plutôt calme lors des manifestations qui se déroulent.
Quelle est la particularité de ces élections ? On parle d'un scrutin qui a valeur de référendum pour ou contre le rapprochement avec l'Union européenne. Que peut-on en dire ?
Oui, alors effectivement, c'est la ligne qui est en tout cas tenue par l'opposition et par la présidente Salomé Zourabichvili, que ces élections seraient un choix, un référendum entre l'Union européenne, entre l'Europe en tout cas, et la Russie. 80% de la population, 80% des Géorgiens se disent favorables à l'entrée dans l'Union européenne. C'est un chiffre qui est extrêmement stable depuis plus d'une vingtaine d'années. Pour autant, on observe que depuis environ 2022, le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, a une ligne beaucoup plus pro-russe. En tout cas, on peut dire qu'il y a un rapprochement avec la Russie qui est tout à fait visible. Et c'est en ce sens-là que ces élections sont présentées comme un véritable choix entre l'Europe et la Russie. Ce n'est pas du tout la ligne qui est adoptée par le parti au pouvoir qui lui présente vraiment ces élections comme un choix entre la guerre et la paix. La guerre, ce serait faire le choix de l'opposition, notamment de l'ancien parti dirigeant le Mouvement National Uni. Et la paix, ce serait faire le choix du rêve géorgien, le réélire, puisqu'en maintenant une position non frontale avec la Russie, il permet de conserver la paix qui est chère à la majorité des Géorgiens.
En fait, le rêve géorgien est arrivé au pouvoir en Géorgie en 2012 et il n'est pas arrivé au pouvoir comme un parti anti-européen.
Non, effectivement, c'est un parti qui se positionne, en tout cas même là dans les affiches de campagne, comme un parti qui soutient tout à fait l'intégration avec l'Union européenne. C'est une position qui est extrêmement ambiguë. On le voit par exemple dans les banderoles de campagne du parti au pouvoir. Ils ont mergé leur logo, qui était bleu et jaune initialement, à celui de l'Union européenne en rajoutant des étoiles qui rappellent celles du drapeau de l'Union européenne. Dans les déclarations, c'est également ce dont les représentants du rêve géorgien font état. En promouvant toutefois une Europe à la Viktor Orban, c'est plutôt ce modèle-là dont ils aimeraient se rapprocher.
Qu'est-ce qu'on appelle une Europe à la Viktor Orban ?
L'Europe à la Orban, ce serait une Europe qui serait vraiment protectrice des valeurs traditionnelles, des valeurs familiales, quelque chose qui est tout à fait aussi promu par les représentants du rêve géorgien. La population géorgienne, c'est une population qui est très orthodoxe et c'est également ce à quoi a fait écho, par exemple, une loi récemment adoptée en mai 2024 sur la protection des valeurs familiales et des mineurs, qui est une loi restrictive des libertés pour les personnes, pour les minorités de genre, pour les personnes LGBTQIA+.
Et quelle est la source d'inspiration de ce type de texte législatif?
Alors, ce qui est dit souvent, et c'est ce qui est reproché au gouvernement géorgien depuis un moment maintenant, c'est que ces avancées législatives sont très largement inspirées de la Russie. On peut parler, par exemple, de la loi qui a été très controversée, qui a fait énormément de bruit, une loi sur les agents de l'étranger, qui impose des restrictions aux organisations de la société civile qui sont financées à plus de 20% par l'étranger. Donc, c'est une loi qui vise à museler ces organisations-là. Et puis, on a eu donc cette loi dont je parlais juste avant sur la protection des valeurs familiales et des mineurs, qui sont deux lois qui ont déjà été promulguées en Russie autour de 2012 et 2013.
Alors, ce que l'on comprend, c'est que en Géorgie aujourd'hui, la présidence et le gouvernement ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Je vous propose d'écouter tout de suite la présidente de la Géorgie. C'est une interview qui était diffusée le 17 mai 2024.
Dans ce pays qui a connu au moins trois guerres et des dizaines d'années d'occupation par les différentes Russies, pour ne pas dire siècles, qui a 20% de son territoire occupé, sur lequel il n'y a pas de jour qui se passe sans qu'il y ait des otages pris, où la langue géorgienne est pratiquement interdite, où les choses sont, les droits de l'homme, y compris des populations non géorgiennes, sont violés tous les jours, il ne peut pas y avoir de tentation de retour dans le giron russe, surtout quand on regarde aujourd'hui ce qu'est cette Russie d'aujourd'hui.
Apolline Roy, on écoutait là à l'instant la présidente géorgienne, elle était très optimiste sur le fait qu'il ne puisse pas y avoir de retour dans le giron russe. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que la population géorgienne dans sa majorité résiste?
Alors on voit finalement que les sondages en ce qui concerne l'envie de rejoindre l'Union européenne et l'OTAN restent stables, qu'il n'y a pas, malgré la ligne anti-occidentale du gouvernement qui multiplie les déclarations en ce sens. Pour autant, la population reste attachée à cet objectif d'intégration européenne qui est vu comme vraiment un espoir pour la majorité de la population, pour qui la pauvreté est encore la question primordiale, notamment l'accès à l'emploi également. Et l'Union européenne représente une perspective de sortir de ce giron russe vers lequel, pour autant, le parti au pouvoir semble se diriger de plus en plus. Cet optimisme, il est peut-être un petit peu relativisé. En tout cas, on voit qu'il y a des pratiques également d'achat des votes, en tout cas des pratiques contestées par de nombreuses ONG qui observent les élections et qui assurent l'intégrité des élections, qui laissent penser qu'éventuellement, la suite des événements n'est pas si claire que cela. Les plus récents sondages qui sont tombés il y a quelques jours permettent, cela dit, de conserver cet optimisme puisqu'ils accordent seulement 35% des suffrages aux partis au pouvoir.
Et sur le plan informationnel, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que les gens ont accès à une information indépendante aujourd'hui en Géorgie?
Alors, la principale source d'information pour la majorité des Géorgiens, c'est la télévision, qui est dominée par trois grandes chaînes, notamment une chaîne qui est pro-gouvernementale et des chaînes d'opposition. Ces chaînes-là ne sont pas forcément accessibles pour tous parce qu'il y a énormément de minorités ethniques en Géorgie qui se tournent plus vers des chaînes, voire du contenu pro-russe qui sont dans des bulles informationnelles. Et pour ce qui est des autres sources d'information, ce sont les réseaux sociaux, avec en particulier Facebook. TikTok aussi a connu une ascension récemment, notamment auprès des jeunes. Je crois que c'est le troisième réseau social le plus utilisé par la population géorgienne. Et ils ont accès à une information en fait, qui voit s'entrechoquer. Enfin, c'est un environnement médiatique qui est très polarisé entre, d'un côté, les sources d'information pro-gouvernementales et une information qui est plutôt menée par la société civile, par les organisations non gouvernementales, plutôt en faveur des droits de l'homme et du côté de l'opposition.
Mais alors justement, puisqu'il y a eu cette loi qui est passée au printemps dernier contre les agents de l'étranger, est-ce que la société civile ne voit pas s'accumuler les obstacles?
Alors si, ça a été très compliqué pour de nombreuses organisations qui ont dû réfléchir à des manières de continuer leurs activités en contournant cette loi. Pour autant, en tout cas, dans le cadre des élections, elles sont toujours en mesure d'exercer leurs activités. On voit par exemple qu'une des organisations, l'ISFED, qui assure l'intégrité des élections, publie des rapports pour mettre en garde la population contre des fake news qui sont divulguées majoritairement par le parti au pouvoir. Notamment, le parti au pouvoir a par exemple dit qu'il pourrait avoir accès au vote des personnes lors des élections, alors que ce sont des élections qui se tiendront cette année 100% par vote électronique. Et ce ne sera pas possible pour le gouvernement d'avoir accès au vote de chaque citoyen. Et ces organisations-là continuent d'exercer leurs activités, par exemple dans la marche qui a eu lieu, le rassemblement en faveur du parti Rêve géorgien, le parti au pouvoir, il y a quelques jours. Ces organisations distribuaient des tracts aux personnes qui étaient présentes pour les rassurer sur le fait que leur vote serait bien anonyme et continuer leurs activités de sensibilisation auprès de la population.
Et alors, quel est le récit propagé sur les réseaux sociaux par le parti au pouvoir?
Alors, depuis 2022, on voit que le parti au pouvoir accentue sa ligne de discours anti-occidental, notamment en mettant l'accent sur la menace que représenterait l'Occident aux valeurs traditionnelles et familiales de la Géorgie, à l'identité de la Géorgie. Il y a plusieurs récits qui sont propagés en dehors de celui-ci, notamment un qui est que l'Occident, qui serait dirigé par l'Europe et les États-Unis, tenterait d'ouvrir une seconde ligne de front en Géorgie, d'entraîner la Géorgie dans la guerre. Et ce serait une décision prise par le Parti global de la guerre, qui est en fait une théorie du complot qui vient du gouvernement géorgien, qui ferait référence à une poignée de représentants qui agiraient en secret et qui seraient notamment à l'origine des révolutions de couleur qui ont eu lieu dans l'espace post-soviétique et qui voudraient de nouveau emmener la Géorgie jusqu'à ce stade de la révolution pour ouvrir ensuite une seconde ligne de front en Géorgie.
Ça, c'est une façon de propager le narratif d'une Europe belliciste.
Oui, alors c'est surtout un récit qui est calqué sur un récit de la Russie, en fait, selon lequel l'Occident aurait été à l'origine de ces révolutions et sèmerait la discorde dans ce que la Russie considère être son étranger proche. Et c'est un récit notamment qu'on voit encore diffusé par les agences de presse liées au Kremlin, qui diffuse ce récit en masse. Il y a des articles qui tombent quasiment tous les jours pour dire que les États-Unis tentent d'ouvrir un second front de guerre en Géorgie, que c'est l'Occident qui est derrière tout ça. Et c'est un récit qui trouve largement écho donc auprès du parti au pouvoir. On le retrouve même dans les affiches de campagne du parti, puisqu'il y a notamment une affiche qui montre les membres de l'opposition tenus par une laisse dirigée par une main invisible qui serait donc ce fameux parti global de la guerre.
Est-ce que ces élections législatives sont aussi menacées par des tentatives d'ingérence?
Oui, alors c'est quelque chose contre lequel la présidente Salomé Zourabichvili met en garde depuis des mois, notamment des ingérences et des tentatives d'interférence en provenance de la Russie. Pour l'instant, alors on a eu quelques cas, notamment une agence de presse, enfin un média indépendant géorgien qui s'est fait pirater et qui attribuerait ce piratage à la propagande russe, puisque tout leur contenu a été reformulé dans le sens de la propagande russe. Donc c'est une allégation qui a été faite, mais on n'a pas encore tout à fait de preuves. Mais ce qui est intéressant de voir en ce qui concerne ces ingérences-là, c'est que le gouvernement estime qu'il n'y a aucune menace de la part de la Russie, en tout cas, mais par contre attribue ces menaces-là à l'Occident. Ce sont des déclarations qui ont été répétées, notamment le Premier ministre géorgien qui, ces derniers jours, n'a eu de cesse de dire que la Russie n'a pas les moyens d'interférer dans les élections législatives qui vont avoir lieu, mais par contre qu'il y a des menaces en provenance de l'Occident, voire même des menaces domestiques. Le service de sécurité de l'État de Géorgie avait publié un rapport il y a quelques jours mettant en garde contre des fausses vidéos qui seraient générées par intelligence artificielle et qui pourraient être faites par des personnes de Géorgie, sans nommer particulièrement d'organisation ou d'individus, mais qui en tout cas représenteraient une menace et une interférence dans le cadre de ces élections-là. Le parti au pouvoir met aussi en garde contre une interférence occidentale et c'est un récit qui a été très vite repris par les agences de presse russes également, qui mettent en garde contre une campagne de désinformation qui serait menée par l'Occident, mais aussi par l'opposition nationale, par des médias proches de l'opposition, par des ONG, et qui viserait à discréditer délibérément le parti au pouvoir.
Pour revenir sur le parti au pouvoir, on n'a pas parlé de l'homme qui est derrière ce parti, Bidzina Ivanishvili. Que peut-on dire de lui?
Oui, alors Bidzina Ivanishvili, c'est un milliardaire qui a gagné la majeure partie de sa fortune en Russie dans les années 90. Et qui, depuis son arrivée au pouvoir en 2012, en tout cas l'arrivée au pouvoir du rêve géorgien, promet de normaliser les relations entre la Géorgie et la Russie. C'est un homme qui est né près de la frontière russe en 1956, qui est d'origine modeste, et qui ensuite a fait sa fortune à Moscou en diversifiant ses activités commerciales, jusqu'à faire partie d'un petit groupe qui est le groupe des sept banquiers, qui en réalité n'était pas composé de banquier uniquement, mais qui a joué un rôle politique et économique très important dans la Russie des années 90, qui a notamment permis à Boris Yeltsin de se faire réélire. Et donc, c'est sur la base de ces expériences-là qu'on spécule des liens encore présents avec le Kremlin. Et ensuite, après avoir fait sa fortune à Moscou, il est revenu en Géorgie. Il s'est lancé dans la politique géorgienne en 2011 en se présentant comme un patriote qui voulait mettre son expérience au service de la patrie. Et c'est aujourd'hui une personne qui exerce un contrôle considérable sur le pays. Voilà, il n'y a personne vraiment en dehors de lui qui a de véritable existence politique. Et même d'un point de vue économique, il détient encore plus d'un quart du PIB du pays.
Comment est-ce que Bidzina Ivanishvili, donc le fondateur du rêve géorgien, intervient dans la campagne électorale?
Alors, on l'a vu donner des interviews là, il y a quelques jours notamment, où il garde cette ligne toujours très véhémente envers l'Occident, en tout cas très protectrice des valeurs traditionnelles de la Géorgie. Et puis, d'un point de vue financier aussi, ça reste le parti le plus riche du pays. Les affiches de campagne du rêve géorgien sont les premières qui sont apparues dans la ville. Et ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu d'abord donc des premières affiches où on voit le logo du rêve géorgien mélangé à celui de l'Union européenne, avec un message qui promet d'aller en Europe seulement dans la paix, la dignité et la prospérité. Donc toujours cette idée de nous, on représente la paix contrairement à l'opposition qui, elle, va nous emmener à la guerre. Puis on a vu d'autres affiches qui sont apparues et qui ont été énormément controversées. Des affiches vraiment qui jouent encore une fois sur ce narratif de la guerre contre la paix, qui montrait d'un côté des images de l'Ukraine dévastée par la guerre en noir et blanc, et de l'autre des images d'une Géorgie flamboyante, notamment des bâtiments qui ont été financés par Bidzina Ivanishvili lui-même, pour jouer sur ce narratif-là. Ces affiches-là particulièrement ont été très critiquées par Salomé Zourabichvili, par le ministère des Affaires étrangères ukrainien également. Et ça n'a pas été les seules, puisqu'elles ont été accompagnées d'une nouvelle série d'affiches qui dit non aux agents, donc aux agents de l'étranger, et qui montre plusieurs membres de l'opposition tenus par toujours cette laisse invisible qui serait dirigée par le parti de la guerre mondiale.
Et comment réagit l'opposition par rapport à ces campagnes de dénigrement? Quel est le récit mis en avant par les partis d'opposition?
Oui, alors l'opposition a aussi une présence dans la campagne électorale. Ce sont des affiches. Alors, on a principalement quatre partis d'opposition qui se sont distingués et leurs affiches sont beaucoup plus sobres. Les affiches du Mouvement National Uni, donc le principal parti d'opposition, qui était dirigé par Mikhaïl Saakachvili. Ce sont des affiches qui sont beaucoup plus sobres, qui sont rouges, c'est la couleur traditionnelle du parti, avec leur numéro inscrit dessus. Et les autres partis ont des affiches qui sont un peu plus familiales, qui représentent les membres du parti se tenant bras dessus, bras dessous. Enfin, et dans leurs vidéos de campagne, c'est plus ou moins la même chose. Ce sont des vidéos qui s'adressent notamment aux personnes âgées, qui s'adressent aux familles, et qui sont beaucoup moins dans le dénigrement en fait des autres partis, en l'occurrence du rêve géorgien.
Donc l'opposition a quand même des moyens pour faire campagne?
Mais oui, l'opposition détient également des moyens, mais qui financièrement sont incomparables à ceux du rêve géorgien qui devance de très loin le reste des partis en cumulé.
Mais il n'y a pas d'entrave à la liberté d'expression?
Non, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait d'entrave à la liberté d'expression. En revanche, il y a eu plusieurs conflits, notamment au niveau de la télévision, puisque par exemple, la chaîne de télévision pro-gouvernementale n'avait pas diffusé les vidéos de campagne des autres partis. Et a été sanctionné par la commission électorale centrale à ce sujet d'ailleurs, après une enquête qui a duré un petit peu. Mais en dehors de ça, on peut pas vraiment dire qu'il y ait d'entrave véritablement à leur liberté d'expression.
Une toute dernière question à Pauline Roy. Est-ce qu'il va y avoir des observateurs indépendants pour vérifier la bonne marche du scrutin, la transparence du processus électoral?
Oui, il y a des organisations, déjà des organisations de la société civile géorgienne qui assurent ce suivi, notamment les opérations de désinformation qui permettent de clarifier ce que peut dire le gouvernement, ce que peuvent dire les partis d'opposition, des organisations de fact-checking aussi. Mais en ce qui concerne, oui, véritablement l'observation des élections, il y a des ONG, il y a des missions qui ont été lancées, notamment sur des initiatives internationales qui contribuent activement à assurer l'intégrité des élections.
Merci beaucoup à Pauline Roy. Je rappelle que vous êtes doctorante à l'Institut français de géopolitique et attachée au centre de recherche GEODE, de géopolitique de la datasphère. On retrouve à présent Grégory Genevrier de la cellule Infovérif de RFI avec un florilège d'infox visant la Côte d'Ivoire. Fausse couverture de journal, fausse vidéo de coup d'État, faux communiqué de presse, tout ça circule de façon virale sur les réseaux sociaux. Bonjour Grégory.
Bonjour Sophie.
Cette désinformation s'attaque principalement au régime d'Alassane Ouattara, mais aussi à la présence militaire française sur place.
Oui, l'exemple le plus marquant, c'est une vidéo publiée sur TikTok cette semaine. Elle affirme, je cite, qu'un coup d'État civil viendrait de renverser Alassane Ouattara. Alors évidemment, c'est faux, il n'y a pas eu de coup d'État ces derniers jours en Côte d'Ivoire. Malgré ça, cette infox cumule actuellement plus de 5 millions de vues rien que sur TikTok. Et les commentaires montrent que certains internautes tombent dans le panneau.
Sur quoi s'appuie cette fausse information ?
Sur des images prétendument filmées en Côte d'Ivoire, mais en réalité totalement sorties de leur contexte. Je vous donne quelques exemples. La vidéo commence avec des militaires qui brisent la vitre d'un bus avant d'y entrer en force. Une recherche par image inversée montre qu'il s'agit d'une formation antiterroriste menée par des militaires sud-coréens en 2023. S'ensuivent les images d'une dizaine de voitures de police poursuivant un pick-up. Une scène filmée aux États-Unis lors d'une course-poursuite en Californie en 2022. On y retrouve aussi dans cette vidéo des images venues du Mali ou encore de France, mais pas de Côte d'Ivoire. Le tout accompagné d'une voix synthétique et d'une musique épique. Écoutez.
La Côte d'Ivoire est encore en feu. L'heure est vraiment grave en Côte d'Ivoire.
Une recette simple en apparence, mais malheureusement plutôt efficace.
Alors un faux coup d'État accompagné dans le même temps d'une fausse déclaration d'Alassane Ouattara.
Oui, en croire une capture d'écran sur les réseaux sociaux, Alassane Ouattara aurait déclaré dans une interview à Jeune Afrique en mai 2011 « Je ne dois rien à personne sauf à la France ». Vérification faite, la citation originale ne parle pas de la France, mais de la Côte d'Ivoire. « Je ne dois rien à personne, sauf aux Ivoiriens », avait titré l'hebdomadaire. Formule modifiée pour décrédibiliser Alassane Ouattara.
Autre cible de ces opérations de désinformation, Grégory, les militaires français présents sur le sol ivoirien.
Et cette fois, l'infox se repose sur un faux communiqué de presse attribué à l'état-major général des armées de la Côte d'Ivoire. Il y est écrit avec plusieurs fautes d'orthographe grossières que l'armée française aurait involontairement attaqué des soldats ivoiriens à Boaké, ce qui est faux. Ce document, fabriqué de toutes pièces, a poussé la police ivoirienne à publier un démenti.
Oui, effectivement. Et alors, est-ce que l'on sait qui se cache derrière ces opérations de désinformation ?
Alors, précisément, non, on ne sait pas. Mais d'après nos recherches, on retrouve tout un écosystème de comptes domiciliés, notamment au Burkina Faso et au Mali. Ces profils diffusent à la fois la propagande des présidents de transition au Sahel et des fausses informations destinées à déstabiliser les régimes voisins comme le Bénin ou la Côte d'Ivoire.
Et les autorités ivoiriennes ont-elles réagi face à ces attaques informationnelles ?
Alors oui, le gouvernement a récemment lancé une campagne de sensibilisation contre les infox en ligne à moins d'un an de l'élection présidentielle. Un scrutin qui s'annonce d'ores et déjà particulièrement exposé à la désinformation.
Merci Grégory Genevrier. Votre chronique est à retrouver en images avec toutes les étapes de la vérification sur notre site. Il suffit de taper Infovérif RFI dans un moteur de recherche Infovérif RFI. Il arrive ici et là dans le monde qu'au Parlement, les députés s'échauffent et même qu'ils en viennent aux mains. La bagarre filmée fait la joie des internautes, mais ce type de séquence qui génère du clic est parfois utilisé pour faire passer toutes sortes de narratifs. Nous retrouvons Kaofi Soui, journaliste à Abidjan pour l'AFP Factuel, le service de fact-checking de l'agence France Presse. Bonsoir Kaofi.
Bonsoir Sophie, bonsoir aux auditrices et auditeurs de RFI.
La vidéo que vous épinglez aujourd'hui, très relayée sur Facebook, prétend montrer une altercation entre des députés rwandais au sujet d'un soi-disant recrutement de jeunes rwandais au sein du M23, le groupe rebelle qui affronte les forces congolaises dans l'est de la RDC, sauf que l'on a affaire à un détournement d'image.
Oui, Sophie, l'auteur de la publication affirme en guise de description de sa vidéo que plus rien ne marche au Rwanda. Le pays fait face à la fin du dictateur Paul Kagame. Il avance également que les parents refusent d'envoyer leurs enfants rejoindre le M23 et que des députés se livrent à un échange de coups. Sur les images, on peut voir une bagarre éclater entre deux hommes qui se jettent un gobelet et un micro avant de s'empoigner. Plusieurs autres individus tentent de mettre fin à la bagarre qui a lieu dans une salle censée être le Parlement rwandais.
Alors après avoir analysé cette vidéo, vous nous dites que cette affirmation est fausse.
Pour le découvrir, nous avons effectué une recherche d'images inversées à partir de captures d'écran issues de la vidéo. Le résultat de cette recherche nous a permis de constater que cette vidéo avait déjà été diffusée auparavant sur Internet. La même vidéo a été publiée sur YouTube le 3 septembre, soit 4 jours avant la publication sur Facebook que nous vérifions. Elle a été publiée par un compte intitulé Galaïd Média. Une recherche sur Internet par mot-clé avec le nom du média figurant sur la vidéo nous permet de constater qu'il s'agit du nom d'un média basé à Hargeisa, la capitale du Somaliland. Ce pays est une république autoproclamée située dans la corne de l'Afrique, voisine de la Somalie, de Djibouti et de l'Éthiopie.
Et vous avez aussi constaté, Kaofi, qu'il y avait un logo sur la vidéo d'origine.
En effet, le logo Galaïd Média est apposé en haut à gauche sur la vidéo originale, mais ce logo ne figure plus sur les images relayées avec des commentaires erronés. Galaïd Média est une chaîne créée par un ancien journaliste de BBC Somalie. D'ailleurs, l'essentiel des contenus de cette chaîne sont produits en langue somalie.
Alors si je comprends bien, Kaofi, la vidéo montre donc une bagarre qui a eu lieu bien loin du Parlement rwandais.
Oui, Sophie, il s'agit effectivement d'une bagarre au sein du Parlement du Somaliland et non du Rwanda. D'ailleurs, le titre de la vidéo d'origine en langue somalie sur YouTube l'indique clairement. Bagarre à l'intérieur de la Chambre des représentants lors de leur séance sur les accusations contre Mohamed Habib. Selon différents médias basés dans la Corne de l'Afrique, la bagarre a éclaté début septembre entre des députés du Somaliland lors d'une séance sur une motion de destitution déposée contre le député de l'opposition, Mohamed Habib.
Et ce n'est pas la première fois que la vidéo de cette bagarre au Somaliland est utilisée sur les réseaux sociaux avec une légende erronée.
Effectivement, AFP Factuel avait déjà identifié des publications en anglais indiquant, avec la même vidéo, qu'une bagarre avait éclaté au Parlement somalien autour de prétendues munitions et armes que l'Égypte aurait envoyées à la Somalie.
Merci Kaofi Soui. On note que le conflit dans l'est de la RDC impliquant le M23 et le Rwanda est de surcroît alimenté par de nombreuses publications mensongères de tous côtés. Des infox débunkées notamment sur le site de l'AFP Factuel. Les dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Arthur Bon à la réalisation. Si vous souhaitez nous adresser des informations douteuses à vérifier, n'hésitez pas à rejoindre le groupe WhatsApp de l'émission au plus 33 6 08 94 93 05. On se retrouve ici même la semaine prochaine. En attendant, place à l'info sur RFI. Je vous laisse en compagnie de Philippe Le Caplain.
RFI, la sélection du mois. Kyoji. Ljubljana avec Gaël Faye. RFI Musique.
Il est pile 19h58 dans 2 minutes RFI soir avec un nouveau journal. Vous écoutez Radio France Internationale. Dans une demi-heure, ce sera Afrique Soir avec vous, Grégoire Morelli. Et vous parlerez tout d'abord de la situation au Mozambique.
Oui, les tensions restent vives au lendemain de l'annonce des résultats de la présidentielle qui a vu arriver en tête le candidat du parti au pouvoir. La contestation se poursuit aujourd'hui. Des coupures Internet ont été observées, notamment dans la capitale. Puis au Cameroun, indignation après la diffusion sur les réseaux sociaux ce mercredi d'une vidéo montrant les mauvais traitements subis par l'artiste Longué Longué. Les faits remontent à 5 ans alors que l'artiste soutenait Maurice Kamto, arrivé deuxième lors de la dernière présidentielle. Nous serons aussi au Mali. Le chef d'un marché à bétail a été enlevé par la sécurité d'État. Boubou Cissé a été enlevé justement alors que le secteur est en pleine grève après que les autorités ont décidé de fermer ces marchés et de les relocaliser hors de la capitale.
Et puis cette question, le nord du Ghana est-il une base arrière pour les terroristes opérant au Burkina Faso?
C'est ce que laisse entendre un article de Reuters publié ce jeudi. Plusieurs sources indiquent que les autorités du pays fermeraient les yeux sur leur présence. Et enfin, nous serons aussi au Congo-Brazzaville avec le lancement de la 17e édition du Festival International du Rire de Brazzaville Tousséo, un rendez-vous humoristique qui fête ses 20 ans et qui réunit une vingtaine d'artistes venus de 7 pays.
A tout à l'heure, Grégoire Morelli.